De Radio Silence, bonjour et bon dimanche. Je sais plus, bien sûr, dans le 1er juin, je sais plus. Mais on n'est pas loin la fin du mois et du 1er juin. Donc tout va bien. Vous écoutez Flash sur le monde par Élise Mbock pour Radio Silence. La dernière fois, on s'était arrêté sur une prière, une prophétie d'un pape nouveau qu'on voulait voir. Il faut croire que la prière a marché parce que nous avons notre pape. Nous avons notre pape, comme on dirait notre père. Hein, notre père, un pape ancré dans la sociologie des mondes, ceux de la rue, voilà, des palais, du sud péruvien, où il a beaucoup exercé, et du nord, à Chicago, à Milan, enfin Milan, au Vatican où il se trouve. Donc c'est un pape qui relie le monde, ça j'ai dit le pape de la sociologie des mondes, qui relie le monde de la pauvreté et celui du capitalisme, car ce sont deux mondes qui se ressemblent beaucoup partout où on trouve la pauvreté, le capitalisme, et le capitalisme fondamentalement prédateur. Et donc sauvage, forcément, et guerrier, façon Israël Netanyahou, qui n'a pas, comment on va dire, qui ne met jamais fin à une tentation d'une guerre, comment je vais dire, ultime. Ultime, parce que il est dans son projet du Grand Israël, qui, vous allez le voir, en fait, on pensait que c'était que le Moyen-Orient, mais en fait, le Grand Israël. Quand on réfléchit au fait que beaucoup d'Ukrainiens sont au pouvoir avec des noms déguisés en Israël, je crois que le Grand Israël, ça recouvrait, ça partait de là où ils sont jusque en Ukraine et en passant par l'annexion de la Russie. Pas ce petit, hein, parce qu'ils ont déjà annexé la Syrie, le Liban. Bon, les Palestiniens, on n'en parle plus. Ils ont fait du massacre en Libye, puis ils ont laissé tomber, ils ont fait tomber l'Irak, ils sont en train de viser l'Iran, donc ils continuaient comme ça tranquillement pour construire le grand Israël. Donc, c'est ça, le capitalisme qui s'arrête pas, parce que quand on parle d'impérialisme d'ailleurs, on met jamais Israël là-dedans, parce qu'Israël était très intéressant, sous couvert américain. Donc maintenant, ils sont seuls. On verra bien ce qu'ils vont nous proposer parce que très récemment, après que Trump ait donné des signes d'abandon d'Israël, tout de suite, Netanyahou a annoncé qu'il allait attaquer l'Iran. Je ne sais pas pourquoi, mais en fait, lui, il a toujours un problème. Il faut qu'il tue, il faut qu'il tue, il faut qu'il tue. Et tout d'un coup, un gros incendie dans un port en Iran. Bon, il ne faut pas être devant hein, pour comprendre que c'est Israël qui est derrière tout ça, faute d'affronter en face, parce que pourquoi ils ne peuvent pas affronter l'Iran en face maintenant? On est en train de parler du pape, mais là on fait une parenthèse, on ne peut pas affronter l'Iran maintenant parce que et la Chine est devenue un acteur, entrée dans le jeu de cette guerre sauvage, impitoyable, qui vise à déplacer 2 millions de Palestiniens ou à les exterminer carrément. La Chine est arrivée et on a vu sa flotte impressionnante, conquérante, invincible, mais alors invincible. Et j'ai adoré la prose du ministre des Affaires étrangères ou encore, je sais pas, quel autre porte-parole quand il dit si quelqu'un veut dormir en enfer aujourd'hui, hein, qu'il touche un peu, qu'il essaye de s'attaquer à un avion, des avions de chasse qui venaient livrer la nourriture aux Gazaouis complètement affamés, complètement. Non, mais c'est incroyable que dans un autre siècle-ci, les forces du mal, l'axe du mal, parce que George Bush utilisait les grands termes, l'axe du mal, c'est l'Occident, l'Union européenne et les États-Unis, c'est ça l'axe du mal. Ils regardent Israël faire ce qu'il fait. Non, ça donne la chair de poule. C'est pas possible, c'est pas possible. Et bon, la Chine est intervenue très forte. Et de toute façon, la Chine n'a plus rien à perdre, hein, parce que avec les tarifs. 90% que Trump douanier, que Trump envisageait de les appliquer ou envisage toujours, ben, elle s'est sentie asphyxiée, poussée au coin du mur et il fallait répondre. Donc elle est sortie du bois et on a vu ce que c'est, hein, une puissance, hein, au point qu'il y a un de ses porte-parole qui a dit que ben, Israël, c'était insignifiant pour eux. Et ils l'ont démontré. Israël a essayé d'envoyer ces petits missiles-là et tout a été intercepté. Parce que eux, ils ont une technologie, ils pensent qu'ils sont avancés, mais ils sont complètement dépassés. Et ce porte-parole ajoute 5 minutes pour raser Israël. Ça leur prend 5 minutes pour que la Chine rase Israël. C'est insignifiant. Ça, c'était le mot. Et ça, c'est des termes forts, hein, en diplomatie, quand on vous dit vous êtes insignifiant. Donc, Netanyahou, lui, s'en fout, il continue son plan guerrier. On ne peut plus le caractériser, lui. Hein. Il est hors civilisation, il est hors monde, il est hors sol, il est hors tout, quoi. Il est hors terre. Donc, le pape des mondes arrive vraiment, ça va combler ce vide laissé par l'Église. Notamment sur le plan du narratif et des récits. Parce que ce sont les récits qui forment nos consciences. Et en les manipulant, beaucoup on a vu, parce que c'est Israël qui jusqu'à présent tenait les ficelles derrière, les ficelles médiatiques, les ficelles de l'économie, les ficelles de la finance, les ficelles de la politique, les ficelles de la culture, et tout le dévoiement jusqu'à la pornographie. Vous voyez la pornographie? Maintenant que j'y réfléchis, parmi les sujets qu'on proposait à ce pape qui est une bénédiction pour nous, parce que c'est ce qu'on demandait à un pape qui communique et surtout un pape qui est dans la réalité des choses. C'est pas seulement quelqu'un qui est grandi, qui a évolué là-bas dans les ordres, mais vraiment quelqu'un qui était sur le terrain et qui peut, qui a touché du doigt. Ce que sont devenus les êtres humains aujourd'hui, le travail de décervellement, de déprogrammation, qui passe aussi beaucoup par cette pornographie qu'on a laissée se faufiler partout. Le problème de la pornographie, c'est que ce n'est pas un acte, pardon, comment on va dire, inoffensif. Non, c'est quelque chose de calculé. C'est quelque chose de calculé derrière parce que ça vous ramène aux instincts primaires, basic instinct. Et les basic instincts, c'est quelque chose qui est aussi de l'ordre de la drogue. Vous voyez, vous n'en sortez pas. Et quand vous n'avez le cerveau qu'à ça, bon, déjà, vous les laissez libres tranquillement, ils vous démobilisent. Vous voyez comment toutes ces choses-là fonctionnent, ils vous démobilisent, ils détournent votre attention vers autre chose parce qu'on vous a dit, oui, ben, le porno, c'est la liberté sexuelle pour les femmes, les hommes, comme vous voulez, allez-y, comme des chiens, comme des chats, comme des porcs, ce que vous voulez, comme des hommes, je ne sais pas si c'est encore des humains, parce qu'après, c'est toujours plus hard, c'est toujours plus complexe. Et en plus, ça devient même une condition pour réussir dans la vie. Bon, c'est pas anodin, la pornographie. Donc, il faut vraiment, jusqu'à présent, les hommes politiques, personne n'a pris le problème, je vais dire par les cornes, mais il faut s'attaquer à ce problème-là et la canaliser et la circonscrire dans un cadre de business bien précis et bien, 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 bien. Contraignant, parce que ça a des effets très pervers sur les jeunes, sur la vie, enfin, sur les rapports hommes-femmes, bien sûr, alors sur la famille, n'en parlons plus, sur tous les équilibres fondamentaux, la pornographie est quelque chose qu'il faudra regarder, peut-être même que c'est pire que l'avortement. Donc, pendant qu'Israël tue, hein, alors juste balancer de la porno était devenu en veux-tu, en voici. Moi, je sais que quand je critique Israël sur Facebook, ben, j'ai des images qui arrivent de toutes les positions, de tout. Et c'est là que vous voyez toute la bestialité de ça et tout le projet qu'il y a derrière, qui est une esclavagisation des consciences, une, comment on va dire, une confiscation des âmes, c'est carrément ça, mais c'est diabolique, hein, le porno. On n'a pas beaucoup réfléchi à ça, mais c'est diabolique parce que ça pervertit beaucoup de gars qui se sont dit bah, comment je fais pour faire comme ces acteurs? Et on rentre dans la drogue. Parce qu'il semblerait que quand on fume, on peut devenir un peu, atteindre un peu les performances du cheval. Ça, c'est une image, hein? Et après, la femme va crier comme dans les films. Non, mais c'est obscène, obscène. Et faire très attention à cette histoire de pornographie. Ça a l'air comme ça, anodin, mais ce n'est pas anodin du tout. Donc, je ne sais pas si le pape, lui, va parler des choses comme la pornographie, hein, parce que l'Église aussi, des fois, devant le sexe, elle recule. Mais je suis confiante avec ce pape, d'abord déjà, le nom qu'il prend, Léon XIV, pour nous qui sommes français. Ça rappelle beaucoup, enfin, de culture française, parce que moi, je suis biculturel, hein, il y a aussi l'Afrique, et puis même l'Amérique, plus la culture du monde, parce que j'ai fait des études sur la civilisation, donc voilà. Comme Roland Barthes disait, tout est dans les écrits, vous écrivez, vous apprenez, si vous apprenez Roland Barthes, vous apprenez l'Asie, bien sûr, les haïkus, l'Empire des sens. Si vous apprenez d'autres acteurs, d'autres auteurs, pardon, vous allez vous faire déplacer dans le monde facilement avec les écrits, et surtout si vous apprenez l'art, les beaux-arts, parce que je suis obligée d'en parler là, avec toute l'histoire de l'art, surtout la peinture, qui va culminer avec la Renaissance, le Quattrocento. Léon XIV, c'est le Quattrocento qui revient pour le Vatican et puis pour le monde, quelque part, c'est-à-dire la beauté, c'est-à-dire le geste, la stylistique, c'est-à-dire. Vous savez, la beauté, c'est quelque chose qui a à voir avec le céleste, hein, la majesté. Et lui, il n'est pas trop. Alors, il a une majesté qui est assez. Bizarre, hein, c'est quelqu'un qui est très. Il a l'air très accessible. Bon, c'est normal, il était sur le terrain, il est direct, voilà, tac, tac, il répond, il rigole, il est léger, il est léger, il n'est pas en pointé. Et dans tout ça, il a une voix, bah oui, c'est-à-dire que, enfin, parce que les autres papes, ils étaient un peu comme fatigués dans la voix arrivée, mais elle n'arrive pas. Mais là, la voix arrive et on se réveille un peu, il nous réveille cette fois. C'est vraiment la voix du Père, d'une autre Père. Voilà, on a le Père, le pape qu'on appelle Papa. Et c'est notre père, parce que c'est voilà un homme enfin qui parle, parce qu'on avait toujours ces efféminés. Vous savez, quand M. Macron parle, bah, vous écoutez par rapport à Chirac, c'est des voix de femmes. Là, on a un pape qui a une voix. Ben oui, et quand il chante, il entonne le chant, voilà. C'est impressionnant, c'est comme si la voix venait du ciel. C'est très important la voix, ça aussi, c'est des choses. On n'est pas ici pour parler de ça, mais c'est sa voix. Elle a quelque chose de chaud, elle a quelque chose qui interpelle, quelque chose qui vous réveille, elle a quelque chose de puissant. Oui, c'est ce pape-là qu'on veut. Et quand on parle de la voix, ça a l'air simple. Hein. C'est très symbolique après, c'est très symbolique. Les cardinaux, ils savent pourquoi ils l'ont choisi. Et d'ailleurs, c'est très amusant parce qu'on voit bien qu'il y a là une triple conjonction dans le choix de ce pape. Dans les coulisses, on se dit bien que Vance, le JD Vance, a dit quelque chose, a glissé quelques mots au pape François qui partait. On voit bien qu'il y a aussi eu des influences de Macron, bien sûr, avec ce nom très français, Robert Francis Prévost, il n'y a pas plus français que ça. Il est d'origine française, et puis Giorgia Meloni, qui est aussi allée en Amérique voir Trump un peu avant. C'était certainement pour cela, ils ont trouvé un bon pape. Ah, vraiment, le casting est formidable, et si les cardinaux ont adhéré, c'est parfait. Donc, le pape, ses premiers mots, on est homme ou femme. Voilà. Il n'y a pas fabriqué quelqu'un qui est né homme qui devient femme ou la femme qui devient homme. Non, on est un homme ou une femme parce que ça aussi, alors on va entrer dans l'interprétation un peu des textes religieux, si on peut dire comme ça, ou de la Bible tout simplement, parce que les textes religieux, c'est peut-être plus complexe que ça. Et il y a un mystère de la création. Tout procède dans cet univers de l'ordre du mystère. Si on n'est pas dans le mystère, on rate tout. C'est comme la mort du Christ et la résurrection. Si vous n'êtes pas dans le mystère, vous avez tout raté. C'est ça le fondement. Et donc ce fondement fait qu'on ne peut pas toucher au sexe parce que le sexe est défini Après, la science explique qu'on peut, on peut boire du lait, beaucoup de yaourt, ça va favoriser qu'on puisse avoir une fille, pas, je sais pas quoi, la course va être telle que tel spermatozoïde va arriver parce que le terrain sera que c'est le bon, c'est possible, mais fondamentalement, la question du sexe de l'enfant conçu est un mystère. Il faut le laisser comme tel parce que l'univers même est un mystère et tout ce qui naît n'est pas forcément comme ça. C'est mystérieux. Il faut laisser ces choses à faire. Quand on commence à toucher, on arrive à autre chose et la religion ne peut pas dévier quand même des fondamentaux comme ceci. Le mystère, la création doit être respectée. Et il ajoute la paix pour Gaza, bien sûr. La mort, on avait déjà dit, ça c'est pas acceptable. On a dit allez, multipliez-vous, on n'a pas dit allez, entretuez-vous. Il ajoute la question de la vérité pour la presse, parce que la presse, elle est là quand on parlait des narratifs et des récits qui déforment et qui manipulent les gens, c'est très important dans la formation personnelle, dans la formation des gens, dans le déroulement des sociétés, qui fait qu'aujourd'hui on a beaucoup d'hommes qui sont efféminés, mais ça c'est parce que ben, les médias sont dans un narratif de ce type-là, qui est un narratif dérégulateur complètement du programme humain. Donc, ces trois sujets, je ne suis pas tout, mais de ce que je peux suivre, je vois dans le pape communique, il a pu faire même une conférence de presse extraordinaire, très rapidement, pour appeler à revenir sur la déontologie journalistique. C'était simple, hein, la déontologie journalistique, c'était que ça, dire de la vérité, dire ce qu'il faut. Mais pensez-vous, Israël est aux aguets. Volonté de pouvoir oblige. Et peut-être satanisme aussi. De toute façon, le satanisme, c'est une confiscation, un détournement du pouvoir dans le noir. Et donc, l'autre aspect qui fait que ce pape, pas ce pape-là maintenant, c'est l'Église, revient en puissance, pas, même pas qu'elle revient en puissance, elle était là, mais on la voyait plus trop dans ses symboles, dans ses rites, dans ses rituels. La scénarisation. Vous voyez, la scénarisation, je vais appeler ça comme ça, mise en scène, comment le pape a été couronné, je ne sais pas, on ne dit pas couronné, il y a un nom, comment l'Église s'expose et se voit dans sa magnificence. On a vu ces décors sublimes, bien sûr, à Vatican, c'est extraordinaire, la place Saint-Pierre et tout ce qu'il y a à l'intérieur. On a vu tout le style qu'il y a dans le décor, dans les ornements, dans le vêtement. Oui, dans le vêtement, c'est extraordinaire. Et puis, ce qui était aussi très, très majestueux, c'est tout ce défilé, l'arrivée, comment les prêtres, les cardinaux, je sais pas, ils arrivent. Et partout, l'Église reflète la perfection, en fait. Et la perfection, et ça aussi, la perfection de l'acte original de la création. Il faut préserver cela. Et la force de la confrérie, l'Église catholique, exprime vraiment la fraternité. Là où, vous allez voir, l'Église protestante, c'est pas ça. Hein. Il y a une fraternité qui sort vraiment, qui est forte. Les Églises protestantes, ils viennent là, deux, trois, quatre, cinq, c'est petit. Là, on a un peuple. L'Église catholique en elle-même, c'est un peuple. C'est trop de beauté, en fait. Moi, et puis les tenues, je dis, mais c'est magnifique, les couleurs, les associations. C'est très beau à voir l'Église catholique. Et elle reflète vraiment la royauté céleste. Si on cherche vraiment l'image du royaume des cieux, ben, il ne faut pas chercher ailleurs. Hein. Vous regardez l'Église, et je n'ai pas dit les parades, ses entrées, sa façon de faire. Ben, le Vatican est un manifeste du royaume des cieux. Et donc, dans ce manifeste, c'est vrai qu'on peut se dire, ben alors où est la place des femmes? Ah, où est la place des femmes? Pour trouver la place des femmes dans l'Église catholique, en fait, c'est un peu le contraire de ce qu'il y a chez les protestants. La femme est exposée, enfin, la femme religieuse et diacre, ancienne de l'Église et tout ça, elle est exposée. Et chez les catholiques, on a l'impression que la femme se trouve inscrite en creux. Elle est là, Elle n'est pas exposée, elle est là. Bon, c'est vrai qu'elle n'est pas la femme du prêtre, ou ce qu'on veut dire, mais elle est là, elle est là. Alors, quand on demande la place des femmes, c'est-à-dire qu'il faut que le prêtre se marie. Peut-être que dans sa vie personnelle, ça ira très bien, je ne sais pas, mais c'est une question sur laquelle je reviens un peu, parce que quand je vois un peu tout le désordre que la présence des femmes, pas le désordre, oui, c'est un peu crié chez les protestants, en termes de confusion des genres, en fait. Chez les protestants, chez les protestants, tout le monde peut parler, quoi, et dire qu'il fait une interprétation, donne une homélie, les femmes, les anciennes de l'Église, les diacres et tout, bah, chez les catholiques, c'est le prêtre qui parle, voilà, c'est le prêtre qui fait l'homélie. Parce qu'il a lu les textes hébreux, c'est très important. Et quand on lit ces textes-là, c'est enfin, encore que ça, c'est toute une discussion. Hein. On commence l'origine de la vie au texte hébreu, c'est pas forcément vrai. Il y a eu une histoire avant, mais malheureusement, bah, on dit quoi? C'est le vainqueur qui écrit l'histoire. Et quand le prêtre qui a fait cette formation vous parle, c'est pas pareil que. C'est pas l'ancienne de l'Église qui parle là et tout. La plupart du temps, d'ailleurs, c'est comme ça qu'ils ont réussi à profaner un peu l'Église, enfin, les protestants, parce que tout le monde parle là-bas, tout le monde vient faire l'homélie, on parle d'homélie, d'homélie. Bon, vous allez dans le culte protestant, vous ressortez un peu vide, et puis surtout, vous n'avez pas toute cette entrée déjà qui vous, j'allais dire, sidère, enfin, qui vous remet tout en place, que, oh, attention, maintenant, c'est le moment sérieux. C'est un peu, chez les protestants, c'est devenu une salle de théâtre, un grand spectacle où le pasteur vient et il fait sa prouesse. Hein. Vous avez vu les évangélistes, moi je les associe. Hein. C'est des grands temples païens qu'ils ont. On fait le spectacle, on fait le show. Et c'est vrai que Martin Luther King avait reproché aux catholiques de faire de la religion quelque chose de mystique, trop sacré, qu'il fallait désacraliser tout ça et le rendre populaire de façon à ce que chacun puisse s'approprier le message et que chacun aille avec cette appropriation voir son Seigneur tout seul et négocier directement avec le Seigneur ou Dieu, je sais pas, parce que les témoins de Jéhovah, ils parlent pas le Seigneur, ils parlent de Dieu, de ses problèmes. Donc c'est devenu un peu un bargain, vous voyez, une négociation. On va comme ça chez Dieu, comme si on allait chez n'importe qui, sans intermédiaire, parce que le pasteur a été déconnecté de cette place-là, détrôné. Il n'est pas l'intermédiaire. Il n'y a pas d'intermédiaire. On va directement avec, je sais pas comment il va d'ailleurs, parce que certains sont initiés, d'autres pas. Certains comprennent un peu plus, d'autres pas. Alors vous allez avec comme vous êtes. On vous dit d'aller comme vous êtes et que ça sera très bien, le Seigneur vous comprendra, il vous accueillera et répondra à vos prières, bon, à vos requêtes, parce que souvent, hein, vous savez, nous les êtres humains, on connaît Dieu beaucoup, hein, quand on a vous demandé. Oh Seigneur, accordez-moi, j'ai pas d'argent. Oh Seigneur, accordez-moi ma santé, je veux pas mourir. Oh Seigneur, accordez-moi, je n'ai pas de mariage, j'ai pas d'amour. Vous avez des choses qu'on demande toujours, hein, cherche un emploi, ma Seigneur, c'est toujours la quête, la demande. Bon, alors on dit, c'est plus, si le rapport à Dieu est utilitaire, oui, effectivement, on y va, on le voit, on lui pose ses problèmes, on soumet. Et puis on attend la réponse. Mais ce qu'on oublie justement dans le processus protestant, c'est que cette attente ne peut être fondée que sur la foi. Et la foi est un mystère. Je ne sais plus comment, il y a une définition là qui dit, j'ai oublié cette définition, je la connaissais, mais elle est un peu compliquée. Enfin, espérer quand il n'y a plus d'espoir, ou plutôt espérer là où on ne devrait pas espérer, ou plutôt espérer en sachant que ça va se réaliser quoi qu'il arrive. On va résumer comme ça. Et l'Église protestante, non, le pasteur est dans la prouesse. Mais chez les catholiques, il n'y a pas de prouesse, hein? Il n'y a pas de prouesse. Le bon pasteur est là pour conduire ses brebis à bon port, dont le rituel est respecté à la lettre. Tout le monde connaît ces rituels, depuis le Pérou jusqu'en Chine, et puis depuis la Chine jusqu'en Afrique. Et donc, ce discours, cet universalisme-là, c'est la force cette force du catholicisme, elle est incroyable. Donc, quand vous quittez dans la fraternité, vous arrivez, bon, on a parlé de la beauté et tout, le sublime, et vous arrivez à ce discours universel. Et là, ça vous scotche parce que tout le monde connaît les rites, c'est un rituel, l'église, le culte catholique, c'est un rituel immuable, d'éternité en éternité, non, permanent, c'est le même. Et surtout, je reviens sur la fraternité, qui l'église catholique vous fait comprendre que le deuxième commandement, en dehors du premier qui relève donc de cette fusion de tous vers un, la figure du pape. Le deuxième commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est fort parce que l'Église catholique l'exprime dans cette fraternité que vous voyez, vous avez besoin de votre prochain, oui, et lui aussi a besoin de vous. Donc c'est une alliance incontournable et immuable. Vous ne pouvez pas aller au Seigneur sans être deux ou trois. L'Église protestante vous dit non, vous y allez tout seul. Bon, donc il y a moins de fraternité, il y a plus d'individualisme, il y a plus quelque chose aussi de business. On manque quelque chose chez les protestants parce que justement on n'a pas des repères comme cela, des références par lesquelles passer en allant tout seul, ça donne pas parce que ça manque de force. On n'est pas né comme ça, on a un père déjà, donc il faut passer par le père. Et comme Jésus lui-même lui dit, nul ne vient au père s'il ne passe par moi. Je ne sais pas, l'Église protestante s'est beaucoup engagée vers cette voie. Et comment elle peut revenir, je ne sais pas, parce qu'elle est dans le moment déjà beaucoup de festif, elle fait beaucoup de festif et beaucoup moins de méditation comme chez les catholiques. Bon, et puis pas beaucoup de rituels, chaque église instaure son rituel à elle, et enfin chaque temple son rituel à lui, et bon, chacun est dans sa paroisse, comme on dit. Et puis, chacun fera comme il veut, comme on dit, chacun pour soi, Dieu pour tous. Donc, c'est très. Je n'ai pas dit que c'est une église païenne, mais bon, ou laïque, hein, on ne peut pas le dire, mais l'église protestante a beaucoup de travail à faire. Et peut-être que c'est pas mal comme ça aussi. Hein. Bon, on les laisse. Moi, je le dis parce que j'ai été des deux côtés et je vois avec ce pape. Pour une fois que je suis vraiment clairement, je vois la grosse différence et je vois aussi que l'Église doit justement, par cette force qu'elle a, elle doit jouer un rôle plus fort aussi, parce que quoi qu'on dise à celui à qui on aura beaucoup donné, on demandera plus. Donc à l'Église, on lui a tout donné, il faut qu'elle intervienne plus dans le débat. Bon, le pape est d'accord, c'est très bien. On voit bien qu'il a une activité diplomatique très intéressante, très très forte, enfin, très très intense. Et ça ne peut que augurer de très bonnes choses. Ceci étant, si on va conclure hein, l'émission, parce qu'on n'avait pas fini la dernière fois avec notre pape, on va conclure. Et là, on va passer dans le monde, on va dire réel, on va descendre du royaume des cieux et dire qu'il y a une révolution en Afrique en ce moment qui est intéressante. On laisse tomber Israël. Israël, ça c'est le passé. Moi, j'en parle même plus. C'est un État. Bon, c'est vrai qu'ils sont. La Bible les couvre très bien, puisqu'ils disaient qu'ils vont jusqu'à l'Euphrate et donc ils voulaient être la nouvelle Babylone ou même la nouvelle Rome, hein, qui sait? Donc, on le laisse à leur business, parce que sans l'Amérique, bah, Israël, évidemment, ne peut plus rien faire. Peut-être avec l'Union européenne, qui n'a d'ailleurs pas d'armée, parce que quand on a vu la Chine arriver, on s'est dit, bah, alors l'Union européenne s'est dit qu'elle va avoir une armée. Bon courage. Donc, ça se passe en ce moment au Vatican, à Rome et puis en Afrique. Voilà les deux points chauds du moment, en passant par l'Amérique où Elon Musk a démissionné, ou je sais pas où il s'en va. Il s'en va, il est fatigué, il jette l'éponge. C'est vrai que l'ambition était trop, comment on va dire. Enfin, la barre a été mise très haut et compte tenu du pourrissement de la société, peut-être que là, sa tête, il doit être menacée de mort, sa tête est mise à prix, donc il s'en va, il s'en va, il n'en peut plus, jette l'éponge. Entre-temps, il a quand même permis à l'Amérique de découvrir un trésor qui était caché quelque part, un argent caché. Bon, l'Amérique peut encore survivre un bon moment. Elle a l'argent. Entre ce que Elon Musk a fait gagner et ce que Trump découvre, un argent qui était caché quelque part dans le budget de l'État ou hors budget, ben, l'Amérique a de quoi avancer. Et bien sûr, elle essaye de façon maladroite de faire pression sur le Burkina Faso pour récupérer l'or. Mais les méthodes employées sont aussi désuètes et ça donne pas. Bon, sinon en Afrique, trois ou quatre événements majeurs, si l'Ouganda, ah oui, mais la Chine aussi, le Mali, peut-être le Kenya, je sais plus, ils ont trouvé de l'or, comme une mer d'or, chacun dans son pays, c'est extraordinaire. Alors maintenant que l'argent risque d'être arrimé, le commerce international sur l'or, ça laisse présager beaucoup, beaucoup de bonnes choses pour l'Afrique. Et après ça, vous avez Dakar. Ah, Dakar, c'était bien, parce qu'à Dakar, on a éconduit. Un Israélien, un ministre israélien qui venait faire une conférence sur Gaza, vraiment, précisément à l'université tchèque en Diop, où M. Sarkozy, on a éconduit sur les jeunes étudiants. Moi, j'avais dit, on va chasser la France comme une pestiférée. Bon, vous savez, les mots résonnent, hein, les mots résonnent. Alors, lui, il a été traité, il a aussi été traité comme un pestiféré. On poursuivait partout, oh non, non, pas ici, pas ici, dehors, dehors. Les étudiants déchaînés, que pouvait-on faire? Que pouvait-on faire? Rien. Et en plus, il vient parler de Gaza, il va dire quoi? Il va justifier un génocide. Et ça tombait bien parce que dans cette université tchèque en Diop, le président Sarkozy était allé déclarer que les Noirs n'étaient pas assez entrés dans l'histoire. Oh, ça avait tué tout le monde. Les Dakarois étaient. Oh, énervé, tout le monde on a tout dit. Et puis finalement, là, on va quand même. Les élèves ont voulu prouver à M. Sarkozy que bah, les Noirs entrent dans l'histoire. Encore qu'ils étaient entrés, mais ça, c'est comme pour la Bible. On a dit au commencement, il y avait Adam et Ève, mais après Adam et Ève, on ne sait pas comment ils ont progressé. Pour devenir blanc, et puis on ne sait pas comment, ils ont progressé pour devenir exclusivement juifs, on ne sait pas. Non, voilà, bon, laissons tomber. Là, c'est pareil pour l'histoire des Noirs, dont on dit qu'avant, les grands royaumes comme celui du Dahomey, par exemple, ou celui du Ghana, étaient déjà très développés, mais les prédateurs coloniaux sont arrivés. Effaré par la jalousie parce qu'il pensait tomber dans je sais pas quoi. On parle même pas du Mali qui abritait la plus grande bibliothèque du monde à Tombouctou. Et voilà un coin où il faut aller, franchement. Il faut faire la promotion de Tombouctou culturellement parce que c'est la culture qui est le nœud, comment je vais dire, qui est le nerf de la guerre, en fait. Vous avez vu, l'Amérique était ce qu'elle était aussi parce que portée par Hollywood, World Music, toutes les références culturelles qui agissent sur le plan de la conscience et du mental. C'est ça où les forces se font et se régénèrent. C'est ailleurs, quoi. Donc, quand Mao Tse-Tung faisait sa révolution culturelle, c'est pas pour rien. Alors, c'est curieux. Parce que... Avant que la Chine intervienne, 2 jours avant, j'ai écrit ici, je me dis, ah ben il faut que je relise Lao Tse. Je crois que c'est lui qui écrit là, la guerre, mais que je regarde. Et vous savez, comme ça, ces écrits, c'est pas les écrivains de maintenant, hein, où on choisit 2 ou 3 écrivains, on prend des nègres, on va retaper des bouquins qui sont sortis depuis que les gens connaissent pas, on plagie, on leur attribue, ou alors qu'on leur recopie. Non, non. Oh, bon, c'est vrai aussi que.
Je sais pas, à cette époque-là, est-ce qu'il était facile d'écrire? Est-ce qu'il fallait pas être l'enfant d'un richissime pour pouvoir aussi accéder au monde de l'édition? Mais le monde de l'édition aussi a été capturé depuis par les Israéliens et les maisons d'édition. Vous pouviez pas passer sans le passeport. Et le passeport, il est pornographique d'abord. Ah oui, on revient toujours à ça, on revient à ça. Mais on a une chance avec l'Afrique. Si Dieu le veut, c'est que, et l'entrée de la Chine, qui d'ailleurs a établi un axe commercial, enfin de coopération avec le Mexique, pour toujours contourner les tarifs, ou plutôt lutter contre par le contournement, c'est la même chose. Ce réveil chinois aussi, ce positionnement franc sur la scène diplomatique internationale, et les pays du Sud et l'Afrique, on se dit, on espère qu'ils vont permettre de rebalancer, ou pas balancer, je sais pas comment dire, de reformuler les frontières, de reformuler les valeurs, de reformuler les façons de faire, de reformuler la pensée. Et c'est un espoir, c'est comme la foi. Hein. On dit, c'est, je crois, on dit encore, espérer des choses, une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. Voilà. Et l'autre partie, j'ai oublié la définition. C'est une définition très, très philosophique. C'est une définition à la fois dans dans la Bible. Mais il faut avoir cette foi-là, parce que cette espérance, parce que sans ça, nous nous trouvons sur un bateau qui chancelle beaucoup, qui va probablement couler, c'est le Titanic, hein, dernière phase. Et comment se réinventer? On compte sur l'Afrique. Enfin, moi, je compte beaucoup sur l'Afrique. Je crois qu'elle peut, parce qu'il y a beaucoup de signaux qui sont intéressants, qui vont dans ce sens. Je compte sur la Chine. Bon, la Russie, n'en parlons plus. Surtout que la Russie vient soutenir l'Afrique, parce que si la Russie vient pas soutenir l'Afrique, ça n'ira pas, ça n'ira pas. Et là, vous voyez, on voit pas Dieu comme ça, on passe par un référent. Et Poutine, en ce moment, c'est le pape africain pour l'Afrique, dans l'autre sens. Il faut passer par lui pour accéder au royaume des cieux. Et puisqu'on a dit royaume des cieux, on va s'arrêter là, amis de Radio Silence. Vous avez écouté Flash sur le monde par Elise Mbock. On continue toujours dans notre série de réflexions, on va dire philosophiques, on va dire, je sais pas quoi, on réfléchit au monde, on va pas dire religieux, peut-être spirituel, je sais pas ce qu'on peut dire. On réfléchit comme ça, et puis on ne sait pas où ça va nous amener, mais certainement au royaume des cieux. Je vous dis à bientôt.